Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Enfin, voilà. un poseur de lentilles qui doit venir ou pas?
Je sais pas, est-ce qu'on fait ça ou pas?
Attends, c'est comme tu veux, est-ce qu'il faut que tu sois.
Moi,
je sois
c'est pour.
Ouais, enfin, moi, ça me gêne. S'il est là, il est là, c'est juste pour le.
Je crois qu'il il va arriver donc.
Le mec a carrément un poseur de lentilles.
Ouais, parce qu'au début, quand t'as jamais mis de lentilles, c'est compliqué. Hein.
Le truc qui démarre jamais, l'émission, ça serait drôle.
Bon, maintenant, il y a la personne qui doit me couper les ongles qui arrive. Mathieu, t'es relou là. Mathieu, désolé,
c'est assez délirant.
Mathieu, t'es sûr, parce que c'est ça qui est un sketch.
C'est la première fois quand même, ça, non?
Ouais, il y a un mec qui a des lentilles qui arrive, ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de mon ami Navo,
je suis ton ami
l'éternel, et je suis accompagné d'un autre ami, Mathieu Chédid. Comment tu vas, Mathieu?
Ça va super. Bien. Comment tu vas? Bravo. C'est bravo, bizarre de dire comment tu vas.
Comment tu vas, petit bravo? Bien.
Ça devient un peu comptine. Comment tu vas, Mathieu?
Ouais, je suis bien dans l'ambiance enfantine en ce moment.
Ouais, c'est vrai, t'es enfant là-dedans.
Bah oui, je viens d'amener mon fils à l'école. Ma fille à la crèche, tu vois, donc je suis bien là-dedans.
Tu es un de nouveau jeune papa.
C'est ça.
Donc là, est-ce que c'est compatible avec les concerts à fond et tout, là, le changement de rythme est intense.
Oui, exact. Mais en même temps, c'est des moments justement où quand tu pars en concert, tu es à ton rythme et tu te reposes un peu, malgré les concerts flamboyants. Mais généralement, depuis, tu sais, quand tu fais beaucoup de dates, tu répètes plus, tu fais plus de balance, tu fais plus de. Tu arrives le soir directement pour jouer. Ouais, et donc, tu donnes toute l'énergie à ce moment-là. Ce qui fait que la journée est plutôt calme. Et bizarrement, c'est ce qui me permet de récupérer quand je retrouve mes enfants.
T'as quasiment 25 ans de carrière, Mathieu? Quasiment, on va dire, depuis que t'as commencé en tant que guitariste pour ton père ou pour Sinclair.
Mmh. Non, si tu reprends à
93.
À cet endroit-là, oui, ça doit être ça, oui. Donc ça fait, là, ça, fait, 30, ça va faire 30 ans, là.
Premier concert avec Souchon Jonas dans la salle.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est le premier concert.
Ouais, complètement. Ah oui, évidemment, puisque c'est vraiment, tu sais, les. Bah, déjà, j'étais. Mon premier groupe, c'était les enfants de Souchon et de Woolsey, et puis aussi de Antoine Benguigui, qui était le fils de Jean Benguigui, qui est toujours d'ailleurs, et qui est un mec génial aussi, mes amis d'enfance, quoi, et d'adolescence, et puis on a commencé comme ça. Donc évidemment, les parents venaient nous voir, donc ça c'était assez impressionnant. Et il y avait Michel Jonas, je crois, qui était venu aussi, accompagner les autres copains.
Comment on grandit ensemble dans un milieu aussi artistique comme ça, avec ton père et tout? Il y a forcément une destinée à un moment donné. Parce que c'est une question que je me pose aussi, je me dis. Est-ce que le fait que mon fils va me voir monter sur scène va lui donner envie de prendre un micro ou de jouer de la guitare ou quoi que ce soit?
Oui, ben je le vois à travers le mien, mon fils aussi de 4 ans et demi qui évidemment fait des spectacles toute la journée, se déguise. Alors, et même, c'est même un peu gênant parce qu'il chante mes chansons. Ce que faisait pas ma fille d'ailleurs, Billy, quand elle était petite. Parce qu'il y avait plus de. C'est pas plus de pudeur, mais c'était peut-être une fille justement. Plus de détachement. Avec mon fils, il y a une identification assez dingue. Qui me trouble un peu parce que j'ai pas du tout envie qu'il chante mes chansons. Enfin, ça me gêne quand il est là, il fait grand petit con et tout, il est à fond.
Il chante mal?
Non, il chante il chante pas très bien.
Ça me gêne, arrête.
Il chante super mal. C'est en dos.
Non, c'est surtout qu'il est, il est vraiment, il est baigné là-dedans. Et effectivement, bah, tu sais, c'est quand même assez. Ça fait rêver, quoi, de voir des musiciens, des grandes scènes, des décors, de la lumière.
Oui, mais vu que ça fait rêver quand. Si tu veux, ça m'aurait fait rêver, moi, parce que c'était pas ma vie quand j'étais gamin.
Oui, c'est ça.
Et quand c'est ta vie.
Oui, oui. En fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que c'est très banal, puisque. En plus, quand tu penses à ma famille, tu vois, je pense à mon fils, ses oncles et ses tantes sont des artistes, ses grands-parents aussi, enfin, ses arrière-grands-parents. Enfin, tu vois, donc t'es entouré, quoi, d'artistes. Et. Donc, c'est assez banal, et à la fois, c'est-à-dire que l'extraordinaire est un quotidien. Donc, c'est assez étrange.
Bah oui, c'est ça. Ouais. Il te voit devant des milliers de gens, par exemple, pendant les festivals, devant 25 000, 90 000 personnes, parfois. Il te voit devant ces gens.
Alors, oui et non, parce que c'est vrai que quand c'est très grand comme ça, généralement, il ne vient pas. Mais il est quand même venu à Bercy. Et
les petits trucs, quoi.
Oui, c'est ça.
Salles, il vient dans les moyennes salles, genre, bien sûr.
C'est ça. Mais je sais pas comment. J'ai du mal à me mettre à sa place parce que c'est vrai qu'il a l'air de trouver ça assez normal. Et à la fois, c'était trop mignon une fois. Je crois que c'était après un concert d'ailleurs aux Folies Bergères, tu vois, pas moins grand.
Ouais.
Mais il parlait
tu
pas encore très bien.
Ton album.
Ouais, exactement. Je lançais mon album. Et donc, je crois que c'est la première fois qu'il me voyait vraiment dans une salle et tout. Et je vais le voir après, je lui dis, ça va mon chéri, ça s'est bien passé pour toi. Et il m'a dit, oui, mais je suis très pressionné. Très pressionné. C'était quand même bouleversant. Mais donc voilà, donc il le dit, il l'exprime, quoi, que c'est quand même pour lui hyper impressionnant. Et à la fois, c'est sa vie aussi, quoi. Enfin, je sais pas, c'est dur de mettre des mots là-dessus, mais voilà, c'est l'idée aussi de cette transmission familiale qui fait qu'on a tous plus ou moins été baignés là-dedans, même si j'ai eu la chance aussi que mon père soit quelqu'un de. Ultra créatif, talentueux, mais beaucoup moins ostentatoire que moi, qui suis dans un truc super héros, grandiloquent. Mon père est plus sobre, et donc j'avais moins cette vision de quelque chose d'explosif. C'était quelque chose de plus posé pour moi, je crois.
Est-ce que t'as un souvenir dans ton enfance où tu t'es dit, parce que t'as commencé la musique, t'es passé par la guitare. T'es rentré dans la musique par la guitare.
En fait, pour la guitare.
Exact. Non, mais je veux même pour tout te dire.
Tu sais pas, tu coûtes ça.
C'est la première fois que. Ok, guitariste donc.
Je suis ravi de te rencontrer.
Okay. Parce qu'il parle beaucoup de ses parents, de sa famille. Je sais pas du tout qui est cette personne.
Oui, non, c'est ça. Mais la réalité, c'est que je voulais faire de la basse. J'ai commencé par la basse, mais quelques semaines. Et c'est mon père qui m'a dit la basse, tu sais, c'est sympa, mais c'est un instrument de groupe. Tu iras jamais très loin avec la basse. Je sais pas, enfin, il était dans ce concept-là. Il m'a dit, fais de la guitare parce que tu peux faire des accords, composer des chansons. Donc voilà.
Et tu te rappelles d'un moment où tu t'es dit, waouh, je veux faire ça tous les jours. Maintenant, c'est tellement intense. T'as pris une décharge. Tu étais fan de Jimi Hendrix, mais t'es tellement intense. Tu dis ça à partir de maintenant. Je sais pas quel âge t'as à ce moment-là, mais tu dis, ok, ça, c'est, je lâcherai plus. Ça, c'est terminé.
Oui, il y a toute une histoire, effectivement, où je suis dans la maison de campagne des Souchon. Et avec Pierre et Charles, d'ailleurs, les enfants et tout. Et puis, il y avait Julien Voulzy et tout ça. On était dans le grenier, on faisait de la musique et on squattait les instruments des parents d'Alain, surtout. Et notamment une Gibson SG. Mais tu sais, un peu à l'abandon, il restait une corde dessus. Et ça suffisait pour faire les riffs des Rolling Stones. C'est dang, 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 dang. Et on faisait un peu n'importe quoi. On jouait, on balbutiait comme ça dans ce grenier. Et puis, tout d'un coup... arrive David McNeil, grand copain d'Alain Souchon, entre parenthèses, fils de Chagall, tu vois, le peintre, tu vois, et un type extraordinaire avec qui il a écrit pas mal de textes.
C'est une page Wikipédia, là, ton enfance, c'est un truc de ouf, il y a des trucs en bleu partout, il faut que tu peux cliquer sur tout.
Ouais, c'est ça, tous les liens sont en bleu.
Tous les liens sont
moi, ça me rappelle Mickey, tu sais, quand il, tu sais, où les Tiny Toons, quand ils prennent des héros connus et ils font la version enfant. Il y a Mini Souchon, il y a un autre Mini Souchon, là, il y a Mini Chagall qui arrive, moi, j'étais là, Mini Chedid. Mais on dirait.
C'est impressionnant.
Faudrait faire un dessin animé.
C'est impressionnant.
Disney, ouais, et donc il arrive, en fait, on l'a réveillé d'une sieste parce qu'il était dans une chambre à côté, mais on le savait pas. Et il arrive un peu bougon, il fait « Non, les gars, là, franchement, arrêtez, vous faites n'importe quoi, là, laissez-moi dormir. » Et puis là, il me regarde, il fait « Mathieu, là, tu joues sur une corde, c'est pas ça la guitare, c'est des accords. Donc, si tu veux, je vais te montrer ce que c'est. » Donc là, il prend une guitare
sympa.
Sèche. Bougon, c'est très sympa. Non, mais tu sais...
j'ai envie de dormir, mais bon, je vais t'apprendre la guitare, je vais mettre 2-3 années, je vais t'apprendre.
C'est ça. Non, et là, un moment vraiment qui a changé ma vie. Donc, il me dit « Voilà, bon, la guitare, c'est un mi mineur, tu sais, les accords de bas, c'est mi mineur, la mineur, ré, enfin, je sais pas. » Donc, il me montre les 3-4 accords de base et il me les apprend. Et là, première fois de ma vie que je fais gring comme ça, tu vois, et ça me met dans un état. Je sais pas, pourtant, mon père aurait pu le faire, mais je sais pas si c'est arrivé là. Et là, je sais qu'il n'y avait pas de médiator dans la pièce et tout, donc j'ai pris des allumettes et j'ai joué ces accords. Et je te jure, je crois que j'ai joué toute la nuit, à tel point que j'avais les doigts qui saignaient carrément. Et évidemment, les allumettes se cassaient parce que ça ne tient pas du tout. Et ça m'a rendu fou. Et là, je suis rentré de ce week-end à la maison complètement chamboulé. Et j'ai demandé à ma mère de trouver un prof de guitare qu'elle a pu trouver la semaine d'après.
Qui s'appelait le fils de qui, du coup?
Il s'appelait Christian Sanchez.
C'est Christian Hendrix.
Le fils de Jimi Hendrix.
C'est ça, exact. et ce mec a été génial pour moi parce que c'est sincèrement lui qui m'a vraiment fait découvrir. Moi, j'étais plutôt né dans la chanson française et tout. J'avais évidemment... tripé, les Beatles à fond, des trucs. Mais par contre, c'est cet homme, Christian, qui m'a connecté au monde des guitaristes. C'est-à-dire, alors évidemment, Jimi Hendrix, Jeff Beck, qui m'a rendu fou. Mais même Charlie Christian, qui était le premier guitariste de jazz qui faisait de la guitare électrique. C'était, et puis, ben voilà, la liste est longue, Eric Clapton et tous les autres. Mais ça a été un... Et là, je suis rentré dans ce monde de la guitare. Et à partir de ce jour-là, je n'ai jamais lâché la guitare. Et c'est devenu un truc incroyable. Parce que ça m'a même sauvé de ma timidité. Parce que j'étais vraiment quelqu'un de... assez.
Je te vois pas faire une crise d'adolescence, par exemple. Tu vois, je te vois pas du tout.
Oui. Alors ça, c'est vrai qu'il y a ça.
Envoyer paître tout le monde. Je te vois vraiment très.
Oui, très très docile, très
docile. Ouais.
Ouais, docile est le mot. Et d'ailleurs, à tel point que mon père, quand j'ai genre 16-17 ans, me dit un jour, il vient voir. On était en Corse, je me rappelle, en vacances. Et puis il était en fait lui qui. Je sais pas, ça le paniquait de me voir trop gentil tout le temps comme ça.
Mais enfin, fais un truc.
Ah, mais je te jure. Mais je te jure.
Fais ma ouinge.
C'était ça.
Bourre-toi la gueule, rentre. Vomis.
Non, il m'a dit, Mathieu, je suis un peu inquiet, tu t'énerves jamais, tu veux pas t'énerver un peu, je sais pas, ça le faisait flipper. Et je t'étais tellement.
Il venait de lire un fait divers, on comprend pas, il était très calme, très gentil avec tout le monde, mais c'est Mathieu ce tour-ci.
Voilà, donc c'était assez dingue. Et en même temps, je me rappelle d'une fois où justement on est dans la cuisine, dans une maison qu'on avait dans le 14e, et puis. Mon père, on est dans cette petite cuisine, on mangeait souvent, et puis il me dit « Tu veux vraiment ? Alors la guitare, ça te plaît ?» Ça devait faire un an et demi que j'en faisais, ou je ne sais plus exactement, bref. Et alors je dis « Ouais, j'adore ça, c'est génial. » Il fait « Mais tu veux vraiment t'y mettre ? Alors donc faut que tu travailles. » Je lui dis « Bah oui, je, vraiment, ça me passionne. » Et il me regarde dans les yeux comme ça, je pense que c'était un écho à son père aussi. Et il me fait « Alors c'est super, mais par contre, il faut que tu sois le meilleur. » Et ça, bizarrement, ça m'a... Parce que j'étais pas dans ce trip-là du tout de compétition, de rien. Tu vois, j'avais juste envie de faire de la guitare, d'apprendre. Et donc ça m'a révolté. Je me rappelle que j'étais, ça m'a mis dans une colère incroyable où je lui dis mais moi je veux pas être le meilleur. Enfin, et je suis parti dans ma chambre et je me suis un peu fâché pour une fois. Et parce que voilà. Et d'une certaine manière, ça a travaillé. C'est pas non pas forcément d'être le meilleur, mais de, tu vois, ça m'a sûrement, il m'a transmis un truc de travail, de je sais pas quoi, de je sais pas de quoi, mais ça a été un truc important aussi.
Et tu sais pourquoi il partait du principe qu'il fallait être le meilleur ?
Oui, parce oui. Ah, mais je sais pourquoi.
Je l'imagine pas comme ça. J'imagine plus, oui. Peut-être parce que je te connais plus
oui.
que je l'ai connu lui. Oui. Pour moi, justement, il y a ce truc de on s'en fout.
Oui.
Moi, je te vois trop me dire, oui. On s'en fout, sois pas le meilleur.
Évidemment,
est-ce que quand tu
évidemment.
Fais de la guitare, tu kiffes ? Ouais,
bah, c'est
alors viens, on kiffe.
Bah, c'est ça.
Même si tu joues un peu mal, c'est pas grave, je t'accompagne.
Mais complètement, t'as raison, ça c'est mon état d'esprit. En fait, c'est bien pour ça que j'étais en colère, parce que j'étais pas du tout dans ce trip-là. Mais mon père, je pense qu'il a... Son père, tu sais, travaillait à l'Institut Pasteur et était quelqu'un de très... Je sais pas si on peut dire compétitif, mais en tout cas, qui a toujours dit à mon père, depuis qu'il est né, faut être le meilleur à l'école, faut être le... Tu vois,
et ben, un truc comme
ça. Donc, c'est vraiment évident que ça venait de son père.
Okay.
Et que c'était un espèce de truc même inconscient, qu'il avait peut-être même pas envie de dire, mais qui était plus fort que lui.
T'en as reparlé un peu avec lui de ça,
ouais.
D'être le meilleur ?
Ouais, évidemment, évidemment.
Est-ce que quand t'es pompé Solid Days, il y a 120 000 personnes devant toi, tu fais « Et voilà, je voulais dire à mon père, voilà, je suis le meilleur. Bonne soirée à tous !»
Non, parce que c'est ça. Très sincèrement, en plus, c'est un peu comme ces trucs de victoire de la musique et tout. C'est extrêmement touchant et franchement, ça m'a marqué, quoi. Tu vois, quoi, d'avoir effectivement la reconnaissance de ses pères et tout, c'est pas rien. Et d'un autre côté... quand on dit, tiens, t'es le recordman des victoires de la musique, tu sais, t'as envie de dire, mais on fait pas du sport, on n'est pas des... Tu vois, ça veut dire quoi ? Et d'ailleurs, c'était très drôle, parce que notre ami Aurel San, qui en avait 12, il m'a dit, tiens, il te talonne, il va bientôt te dépasser. Tu fais, arrêtez les mecs, là, franchement, ça me gêne. Enfin, parce que tu vois, c'est quand même un peu délicat, la musique, c'est pas ça le concept, c'est quand même de... Enfin, même si on est dans un monde très compétitif, je pense que d'ailleurs, c'est le monde d'hier, quoi, que ça, c'est, il faut qu'on arrive à switcher un peu, mais,
ouais, ouais.
Mais d'une certaine manière, c'est... je crois pas que ce soit ma motivation, et c'est peut-être ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui aussi, et que j'ai la chance d'avoir encore du public qui me suit, c'est parce que j'ai pas ce stress-là, je crois.
Alors, est-ce que c'est une clé ? Alors là, c'est un avis totalement subjectif que je vais donner. Moi, je te suis depuis maintenant 23 ans.
Non, je ne connais pas la frigueur. Aigre est ma couleur de peau.
Depuis les premiers, depuis Je dis M, depuis les premiers albums. c'est pas méchant ce que je veux dire, au contraire, c'est plutôt flatteur. Je veux dire, je pense que Révalité, ton dernier album que tu as sorti maintenant il y a un an et demi, je crois, je crois que c'est ton meilleur album. Je trouve ça fou qu'après 30 ans de carrière, on arrive encore à sortir son meilleur album. Tu vois, normalement, dans les parcours des musiciens que j'ai toujours vénérés, par exemple Muse, je trouve que les meilleurs albums sont les premiers. Tu vois, et après, je trouve qu'il y a autre chose. Ouais. C'est autre chose, ça part. Je trouve que tu arrives à te renouveler et à donner du meilleur. Vraiment, j'ai passé tout l'été quand c'est sorti à écouter en boucle l'album. En plus, c'est la BO de la naissance de mon fils, donc tu vois, il y a un truc. Mais tu as réussi à te renouveler et à faire ça bien et à le faire avec le cœur, tout en étant toi. C'est-à-dire que tu n'es pas parti ailleurs, tu vois. Et je me pose la question, parce que quand tu avais fait aussi Hill, tu étais déjà avec Mojo, avec des trucs comme ça, tu étais déjà... quand on s'était vu là, c'était à une époque où on s'était commencé à se fréquenter, tu étais dans une période où justement tu t'es dit, on arrête les... Comme si tu étais sous injonction à faire des albums, tu étais plus dans... Maintenant, l'injonction, c'est on arrête les il faut. Ouais. Et s'il y a un il faut, c'est il faut s'amuser.
Ouais.
Tu vois ?
Oui, ça, c'est vrai.
Et de plus en plus, je trouve que tu t'ouvres et que tu lâches en fait quelque chose. Est-ce que j'ai raison ou pas ? C'est juste un
avis. Tu sais, déjà, c'est...
Je trouve ça marrant comme question. Non, c'est juste... C'est ton meilleur album. Est-ce que j'ai raison ?
Oui, c'est ça.
Ça fait oui, c'est vrai. Est-ce que tu lâches quelque chose ? Je me suis déchiré. Non,
mais j'allais te dire, tu sais, que ça fait du bien à entendre, sincèrement, parce que on est tellement conditionné, et c'est souvent légitime de dire que les premiers albums sont quand même souvent les plus honnêtes, les plus instantanés. Et j'ai toujours cette inquiétude terrible de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire un petit peu de réchauffer, de refaire... Tu vois, pourquoi
Mathieu, c'est derrière. C'est fini. Voilà. Vas-y, tu travailles un matin, Mathieu.
C'est terminé,
Mathieu.
C'est derrière toi.
C'est fini. C'est
alors, on va faire Greatest Hits. Et ensuite, on fera une compile. Ensuite, tu auras ta soirée spéciale sur France 2. Voilà, c'est ça maintenant ta vie.
Bah oui, depuis en plus, que je suis rentré au musée Grévin, on peut se poser des questions. Non, mais tu vois, et donc, il y a ce côté-là, c'est-à-dire que j'ai toujours cette inquiétude. Et j'ai le sentiment, effectivement, parce que je suis tellement un fils du présent, d'être. De faire ma meilleure tournée, mon meilleur album. Je suis dans ce truc-là parce que je suis dans l'enthousiasme permanent. Donc, j'ai cette sensation, mais il faut avouer que c'est tellement... peu de gens, tu vois... comment dire, quand la nouveauté est passée, tu sais, pour que, retrouver cet enthousiasme collectif, c'est pas évident. Alors, je le retrouve sur scène. Et sur disque, hein, de toute façon, ça existe. J'ai beaucoup de chance que ça existe. Et même, j'allais dire, de vendre encore des disques est aussi un peu un miracle. Tu te demandes qui achète des disques encore physiques. Mais voilà, ça me fait très, très plaisir parce que je ne sais pas si beaucoup de gens le pensent autant.
Ah, je le pense sincèrement. Je connais très, très bien ce que tu fais. Vraiment, depuis le début, quoi. Ouais, depuis... En plus, il y a ce live à l'Olympia que tu avais fait dans les années 2000 qui était, c'était vraiment très drôle. Il y avait une caméra sur le micro.
Le tour de M,
ouais, qui était révolutionnaire, tu vois, déjà à l'époque, de sortir un truc comme ça. Et je trouve qu'à chaque fois, je me dis, j'écoutais avec ma femme, on se dit, mais quand même, c'est vachement bien, quoi. Et quand tu sors des titres à Révalité, tu sens que c'est un banger tout de suite, ça part, enfin, t'es obligé de l'écouter, tu dis, waouh, j'ai envie d'écouter jusqu'à la fin. Mais après, quand tu plonge dans l'album, c'est-à-dire que tu racontes quelque chose dans ton album. Tu vas dans... Il y a une chanson qui s'appelle « Ce jour-là », qui est très calme, qui est très posée, mais dans laquelle tu fonces. Et bizarrement, c'est une chanson écrite par ta grand-mère aussi.
Oui, oui.
Ce jour-là, à perdre Kai, à perdre Liane, à perdre Mur.
Et c'est fou parce que c'est là où je me suis dit, putain, j'adore cette chanson, c'est ma préférée de l'album. Et en fait, c'est exactement comme... c'est la même alchimie avec Je dis M.
Ouais, c'est vrai. Surtout qu'il y a une histoire. Le jour où je... Enfin, je pianotais ce morceau. Il y a un piano qui est dans l'arrière-cuisine, enfin bref, à la campagne. Et donc, je pianotais, j'avais cette mélodie entêtante et la mélodie... Enfin, les accords et la mélodie. Mais j'avais pas le texte, rien ne me venait. Et je me disais, tiens, je sens que c'est un morceau important émotionnellement. Il faut que le texte soit à la hauteur. Et là, quand je me dis ça, je pense à ma grand-mère parce que... Et ce que je fais, ce que
ma
j'ai...
Ma grand-mère est poète.
Oui, pardon. Ma grand-mère est poète, romancière et très inspirée. D'ailleurs, j'invite vraiment les gens à lire sa poésie et même ses romans, d'ailleurs, qui sont incroyables. Mais, et donc, il y a d'ailleurs des recueils, je crois, chez Flammarion, qui est un espèce de recueil où il y a toute sa poésie.
Je fais un geste pour les références.
Et c'est magnifique.
Il monte souvent sa bite comme ça.
C'est à propos. Et c'est vrai que tu peux ouvrir, c'est des poèmes assez courts généralement, très denses. Et tu ouvres n'importe quelle page et tu te prends une bouffée d'oxygène à chaque fois. Donc là, j'étais là avec ma mélodie un peu perdue au niveau du sujet, quoi. Je ne savais pas quoi dire. Et je fais ça souvent, je prends le livre de ma grand-mère que j'ouvre à une page au hasard et que je pose sur le piano. Et ça tombe sur cette poésie qui ne s'appelait...
D'où le morceau édité en avril 1991.
Impression, ah oui, c'est édition, impression, c'est
deuxième
Paris,
impression. Cher Mathieu, voici ce livre.
Ça serait une bonne idée, ça.
Je suis tombé sur cette page,
Je ne sais plus d'ailleurs quel était le... Parce que ce n'est pas le titre d'ailleurs du poème ce jour-là. Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Mais par contre, voilà, donc j'ouvre la poésie là et c'est assez dément. Ça m'arrive assez souvent avec ma grand-mère. Et là, je chante immédiatement la chanson et ça marche, tout marche tout seul. Et ça devient ce jour-là, qui est un des mots de cette poésie que je prends comme une sorte de mantra comme ça. Et alors là, il y a un truc qui se passe. Il y a les enfants derrière, je me rappelle, qui jouaient. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je ressens sûrement la présence de ma grand-mère très, très fortement. Et je me mets à pleurer, alors que je suis assez pudique. Je ne pleure pas si souvent que ça. Et là, mais un peu en sanglots comme ça. Mais personne ne me voit. Je suis même un peu gêné. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu vois, parce que l'alchimie du texte, la rencontre du texte et de la musique me crée une émotion étonnante. Mais qui m'est rarement arrivée d'ailleurs, tu vois. Et tout d'un coup, comme s'il y a une rencontre qui se fait et que ma grand-mère est là. Enfin, bref, un truc mystique. Et voilà, et ça a été... Et je me suis dit, là, il se passe un truc. Et c'est vrai que c'est sûrement le morceau sur scène, comme sur le disque, qui me touche le plus.
Mais c'est fou quand même que... C'est comme s'il y avait une signature de votre alchimie entre tous les deux. J'étais même pas au courant que c'était ta grand-mère qui avait écrit ce morceau.
Ouais.
J'étais là, je fais, c'est dingue, mais c'est vraiment le M qu'on connaît. Tu vois ce que je veux dire?
Complètement.
C'est fou quand même d'avoir cette similarité, sans même le savoir.
Parce qu'il y a cette connexion entre nous deux qui a toujours été là. Quand je parle de ma grand-mère, quand je la vois, tu sais, dans des archives vidéo, je sais pas quoi, ou des photos, il y a toujours un truc où j'ai presque envie de pleurer. Enfin, tu sais, comme si on avait une connexion très forte au-delà du réel, je sais pas.
T'as un souvenir avec elle, un truc qui t'a marqué, qui te dit waouh, ce moment-là, c'était incroyable.
Il y en a plein. Mais déjà, par exemple, la première fois qu'on écrit une chanson, où elle fait une émission de radio, je crois, et on m'appelle en direct. Elle voulait que. On lui a demandé qui voulait appeler pour lui poser une question.
On est sur Énergie, il est 8h15, on l'a tout de suite. C'est vraiment...
T'imagines?
Avec la musique et tout. On a Mathieu Chédid pour son album Jeudi M, tout de suite. Alors ta grand-mère nous a appelé.
Et là, je crois que c'était à l'époque, j'avais fait mon premier disque déjà. Et donc, ah oui, c'est ça. Et je devais poser une question à ma grand-mère en direct dans une émission de radio. Et donc... Je suis en direct et je lui dis, écoute, est-ce que tu me ferais... Ma question, ça serait... On en a parlé déjà, j'adorerais qu'on fasse une chanson ensemble, c'est mon rêve et tout. Et elle me fait, oh mon petit chéri, c'est une super idée, évidemment, bah, donne-moi un thème de chanson. Alors je lui dis, M. Bah, génial, ah oui, bah, c'est une super idée. Bah, je te rappelle tout à l'heure et je te fais une chanson. Et ça, je lui dis ça dans l'après-midi. Et elle rentre chez elle, ça l'inspire, elle l'écrit vraiment, franchement, en une heure, le texte, et elle me le faxe. J'étais dans le sud chez mon père et elle me le faxe. Alors là, c'est aussi un délire parce que ça a toujours été comme ça. Pareil, j'avais une mélodie sur le moment qui m'entêtait, ce qui était la mélodie de Jeudi M. Il y a le texte qui arrive, je chante direct dessus et mon frère Joseph, qui avait 8 ans, il adorait participer avec moi aussi à la musique, mais il ne savait pas jouer encore très bien. Et avec son doigt, il fait, en même temps que je faisais les suites d'accords, il fait il faisait deux notes, sol là, comme ça. Et ça a donné le thème de la chanson. Donc, ça a été une chanson collective, familiale.
Ça tient à rien, c'est ça qui est fou. Ça tient à un instant avec un enfant. Et...
Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que ça a commencé déjà de façon assez explosive, la première chanson qu'on ait fait ensemble. Et après, j'ai mis en musique des poèmes à elle, comme Bonobo, un morceau sur les singes amoureux. Et plein d'autres après. Des chansons aussi pour Les Clowns sans frontières, En piste, plein de morceaux. Hein. Je me démasque parce qu'aussi, elle voulait. Elle me disait, mon petit chéri, c'est super ton look là, mais c'est quand même un peu clownesque, il faudrait que tu arrêtes ça assez vite. Donc je t'ai fait une chanson pour que tu arrêtes hein, comme ça. Je t'ai fait une chanson pour sortir de ce personnage qui s'appelle Je me démasque. Et donc j'ai fait la chanson, mais je suis resté quand même. Non, c'était mignon.
J'ai envie qu'on fasse un petit jeu ensemble. C'est un truc qui s'appelle lecture de notes. Mmh. Alors, lecture de notes, qu'est-ce que c'est? On va plonger un peu dans le téléphone de Mathieu et même dans le mien et dans celui de Navo. Mais Navo ne prend plus de notes, je crois.
Je vais revérifier, mais vraiment, maintenant. Et en fait. Je t'envoie les textos, moi.
Ouais, c'est vrai, à chaque fois. Ouais. On est un peu habité d'idées et on les note tout de suite parce que le pire danger pour une idée, c'est de disparaître et de ne pas la noter. Enfin, je pense qu'il faut une exigence de noter. Tu fais ça, toi aussi?
Ah oui, mais alors c'est vrai que je suis très nostalgique des cahiers, tu sais, notamment les Moleskine, qui est quand même sublime. Et parce qu'à l'époque, tu vois, je retrouve tous mes cahiers de l'époque, et c'est quand même hyper émouvant de voir les ratures, de voir 8 fois le texte réécrit pour l'affiner, de voir les idées oubliées. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, on a la facilité d'avoir ce petit truc-là. C'est génial, évidemment. Et ça m'aide beaucoup, mais j'ai... C'est vrai que c'est quand même ultra émouvant parce que, tu vois, le manuscrit, le petit dessin à côté, l'idée qui n'est pas forcément un texte, mais qui est aussi un concept visuel. Parce que moi, j'adore aussi quand je fais mes tournées, tu sais, il y a toujours... j'ai toujours des images qui me viennent. Alors, je fais des petits croquis enfantins comme ça. Mais tout ça, ça crée quand même un univers que je trouve plus complet. Donc voilà, petite frustration avec le numérique et...
Mais c'est surtout, qu'est-ce que tu laisses aussi comme trace quand tu as des carnets? Moi, j'ai des carnets, des tonnes de carnets à la maison.
Oui, c'est ça.
C'est quand même beau, quoi. Il y a un truc. Waouh, wow, il a plongé sa vie à écrire des trucs. Alors, moi, maintenant, je fais des notes par année. Genre, j'ai une note maintenant qui s'appelle 2023. Voilà. Et je.
Ah, c'est bien. Parce que moi
j'ai vraiment
c'est un peu
rien
plus
du tout. Vraiment, je regarde. Le seul truc que j'ai, c'est de dire c'est cool pour les marionnettistes. Parce qu'en fait, ils peuvent aller à la télé, genre ils insultent la grand-mère à Michel Drucker et on leur dit rien. C'est-à-dire que si tu viens, que tu t'assois, tu dis Michel Drucker, c'est quand même une grosse pute, jamais vu ça. Tout le monde dit mais monsieur, sortez du plateau. Alors que si t'as juste une marionnette qui dit mais tout de même, Michel Drucker, c'est quand même une grosse pute. Fais, oh poupou, tout le monde. Mais Michel est là. Oh poupou, arrête. C'est sa main, hein, c'est lui qui l'a dit. C'est la seule blague que j'ai et elle date de janvier.
Écoute Mathieu, si tu veux.
Ouais bah écoute. Ouais. Alors là par exemple, c'est un essai d'une version, une adaptation française de Goodbye Stranger des Supertramp, mais qui est encore en cours. C'est-à-dire que je vais encore l'affiner.
Okay.
Et tu vois là, c'était au petit matin hier, j'étais debout avant l'aube. Comme votre présence me fut chère, je m'attache à l'oublier. Comme un roi laissant son royaume, comme une reine sans couronne. Au matin, je suis un lover et je rêve toujours d'ailleurs, etc. Mais ça dure des plombs. Hein.
Ouais,
mais,
tu
vois, c'est bien, mais je préfère le truc de la marionnette avec Michel Drucker.
Je suis bien d'accord. Mais tu vois, ça peut être... C'est plein... Alors sinon, ça peut
être...
Ah, donc
ça, dans ton téléphone, parce que je sais pas... Ouais. Oui, effectivement, il y a toujours cette image. Je t'imagine avec une plume sur...
En plus, t'aimes bien écrire
sur
bien
sur une feuille, écrire des textes. Mais c'est vrai qu'en fait...
Ça aide vachement, parce que c'est vrai que, tu vois...
C'est la nouvelle serviette en papier du resto, quoi.
C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, parce que c'est moins...
Organique.
C'est moins organique, tu vois. Là, c'est des trucs complètement... Alors, des délires comme ça, par exemple, c'est des trucs quand j'écoute un mix, par exemple. Tu vois, là, il y a marqué « Voix up, home », parce qu'il y a une chanson qui s'appelle « Rivalité ». Ah oui, non, c'était pour l'étalonnage du film.
Du film qui sort le 7 décembre au cinéma, c'est ça?
Exactement.
Le concert.
C'est ça, le concert de Bercy. Tu vois, tâche et talot... image compressée, parce qu'en fait, je me demandais si l'image était carrément un peu pourrie, mais je me demandais si ça venait de là, tu vois, etc. Enfin, bref.
C'est-à-dire qu'on peut aller au cinéma voir ton concert?
Ouais.
Voir ta captation de concert?
C'est ça. On a filmé Bercy sur les 3 soirs. On a surtout essentiellement gardé le samedi soir, le dernier. Et donc, c'est un travail assez dément. D'ailleurs, un peu violent, parce qu'il faut se regarder chanter. Parce que, tu vois, entre le spectacle vivant et le revoir après, c'est un peu... Ouais. Tu dis, oh, pourquoi ça? Pourquoi se vivre ça?
Nous, on ne se dit pas ça.
Ah ouais?
Bah, nous, quand on te regarde, que toi qui est pas bien de te voir en live.
Surtout, je m'entends crier tout le temps, tu sais, parce que je suis surexcité. Enfin, tu vois, tu connais. Hein. Et souvent, je me dis, mais arrête de crier. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Bon, bref, donc c'est pas toujours très agréable, mais en tout cas...
C'est cool, du coup, ça sera dans des cinémas, donc on pourra avoir l'ambiance de
d'être
ensemble.
Surtout qu'en plus,
c'est
un vrai délire, parce que ça va être vraiment mixé en Atmos, tu sais, même en plus que ça, tu vois. Donc on restitue vraiment, il y a je sais pas combien, genre 30 micros dans la salle pour restituer l'ambiance du...
Puis il y aura des musiciens sur scène, et puis toi, en fait, c'est juste un concert.
c'est ça.
Ça va être super bien fait. Bon, il n'y aura pas d'image, en fait, on va tout refaire en live.
Ça devient tendance, parce que je crois qu'Aurel, pareil, a sorti son...
Oui, c'est c'est le même principe.
Et
c'est
formidable de faire ça, parce que justement, c'est une autre... Les gens qui n'ont pas pu voir le concert peuvent se déplacer au cinéma et kiffer, quoi.
Ouais. Et puis ceux qui ont vécu un moment intense, tu vois, et qui ont envie de revivre ça autrement ou de le faire partager à quelqu'un, parce que c'est... Je pense que c'est jamais pareil, mais je crois sincèrement, je ne sais pas pour le vendre du tout, mais que c'est le meilleur film que j'ai fait de concert, quoi. Il est vraiment, tu vois, quand je sais pas, ça marche, ça prend, quoi. Ça pourrait être très ennuyeux de revoir un concert, tu vois. En plus, ça dure un peu longtemps, ça dure plus de 2 heures, et je trouve que j'ai l'impression qu'on s'ennuie pas.
Est-ce qu'il y a comment c'est une question que je te pose vraiment d'artiste à artiste. Comment tu fais pour être autant dans le plaisir sur scène, dans le lâcher prise sur scène, mais dans toute cette précision? Parce que quand on voit ton spectacle, c'est extrêmement précis. Il y a des moments où tu dis, OK, là, maintenant, Mathieu part dans le public, et maintenant, il va courir, il va jouer avec les gens et tout.
Ouais.
Mais quand on voit ton show, tout est extrêmement précis. Il y a limite un côté vraiment surprécis même. C'est vraiment clac. Ouais. T'arrives à osciller entre ces deux personnalités totalement différentes, visiblement. Donc, il y a un Mathieu avant et un Mathieu pendant.
Je crois que j'associe les deux. C'est-à-dire que j'associe la maîtrise et le lâcher-prise. Je pense que c'est plus tu maîtrises quelque chose et plus tu peux lâcher. Donc, bizarrement, c'est comme ça que je suis le plus à l'aise. C'est quand j'ai bien digéré, bien projeté les choses que je peux complètement faire autre chose que ce qui était prévu. Mais ça m'a permis de me centrer, en fait. Et à partir de là, je peux partir dans tous les sens. Mais pour partir dans tous les sens, il faut être très centré.
Donc, il faut beaucoup travailler en amont.
C'est sûr que c'est du travail, mais c'est le gigantisme du détail. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'aperçois que le détail, c'est l'essentiel est dans le détail. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre un truc un peu lambda et entre guillemets un chef-d'œuvre. C'est que le petit détail qui fait la différence. Mais je crois que je suis devenu amoureux du détail. C'est-à-dire que c'est fascinant de voir qu'effectivement, quand tu enlèves 3 secondes à la fin d'une chanson et que tu enchaînes sur celle d'après, l'émotion et la tension est incomparable. Avec ce petit ventre mou qui fait que ça fait redescendre.
Et donc, il faut mettre en accord les techniciens, la lumière, les musiciens, la répétition de la transition. Il faut tout mettre en place. C'est un vrai travail.
Et plus que les mettre en accord, il faut les investir pour qu'ils se... les responsabiliser, ou je ne sais pas comment dire. En fait, qu'ils rentrent en fait dans cette logique-là et qu'ils soient aussi convaincus que toi que cette chose-là est extrêmement essentielle. Et donc, ça crée une tension générale d'équipe qui fait que tout le monde est convaincu qu'en fait, ce petit détail-là va tout changer. Et donc, tout le monde s'investit d'une manière incroyable. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'au bout de 50 dates, les gens sont de plus en plus investis. Parce qu'on pourrait dire, bon, à un moment, ça va, on va relâcher un peu. Mais j'ai l'impression que non. Et j'ai vraiment le sentiment que le spectacle est de mieux en mieux à chaque date. C'est comme un jeu vidéo, tu sais, où tu passes au niveau d'après. Il y a vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que quand je vois les Folies Bergères et que je vois même le théâtre antique d'Orange, bah, je pense qu'on a vraiment explosé le truc à chaque fois. Et c'est toujours mieux, quoi.
Et tu fais des petites notes après les concerts, tu t'essaies de dire là, on peut améliorer. Vraiment, c'est la même comme nous, quoi.
Dès que ouais,
là,
c'est ça, c'est ça.
Ouais, cette vanne, plus de rythme, là, on va couper là, on avance là, clac, clac, pour rendre au public
c'est vraiment, incroyable. Tu sais, c'est l'école Prince, hein, il faisait ça. Je crois que presque chaque concert de sa vie, quand il était possible de les filmer, il les regardait le soir même, il se couchait à 6h du mat, il avait une assistante qui prenait toutes les notes. Et le lendemain, il redébriefait, tu vois. Alors, j'ai essayé de prendre cette logique-là. J'ai peut-être pas fait ça sur tous les concerts, mais quand même. En tout cas, je remets toujours en question le spectacle en me disant, là, on perd un truc, là, on s'ennuie, là, je sais pas quoi. Enfin, tu vois. Et surtout, tous les points de vue, c'est ça qui est génial, c'est que c'est autant le point de vue de quelqu'un qui me suit depuis 20 ans qu'un enfant de 4 ans qui va pas tout comprendre, mais qui va vibrer... à la musique, aux couleurs, au look et tout ça. Et ce qui est troublant, c'est que d'ailleurs, depuis quelques années, le public s'est extrêmement rajeuni. Ça, c'est assez dément. Là, on est vraiment... beaucoup d'enfants viennent à mes concerts de plus en plus. Et il y a un petit effet Tintin, quoi, de 7 à 77 ans. Il y a vraiment ce truc très familial qui est très palpable. Beaucoup plus qu'il y a 10 ans, par exemple, où c'était plus ma génération. Tu vois, là, il y a... Ça s'est extrêmement ouvert et ça, j'aime bien.
Ils ont eu des enfants, les gens qui te suivent ont eu des enfants. Et puis, ce morceau, La Scène,
oui, c'est ça.
Qui est un hit, en plus pour les enfants, en plus c'est ça, qui aujourd'hui encore, j'ai vu les concerts, ils ont entre 6 et 12 ans, ils montent sur scène avec toi, ils dansent avec toi, ils chantent avec toi, tu les fais chanter.
Ouais.
Bah, pour eux, c'est un moment exceptionnel.
Ouais, ça c'est génial. Mais c'est...
Tu t'attendais à voir, quand t'as fait ce morceau qui était une BO d'un film, de le continuer derrière pendant quasiment 20 ans, quoi.
Non, mais par contre, je savais que j'avais quand même pensé... Alors, ça marche pas à tous les coups, mais c'était l'idée quand même de la chanson, la rengaine populaire dans le film, hein, déjà. C'était un peu la chanson de Lucille dans son cabaret, qui était son... Tu vois, donc j'avais quand même pensé projeter le côté, tu sais, le succès de l'époque, je sais pas quoi, à ma façon, quoi. Mais donc, Et c'est vrai, quand j'ai fait ce morceau, J'avais le sentiment d'avoir fait une chanson populaire, ce qui est complètement une vue de l'esprit, mais je l'avais quand même perçue et ressentie.
Tout à l'heure, tu utilisais le mot maîtrise.
Ouais.
Je veux juste savoir si tu es d'accord avec moi, parce que j'avais une réflexion récemment, et comme tu as dit ce mot-là, et que c'était un peu la question de Kian, est-ce que je me faisais la réflexion, je me disais, il y a une subtilité, et j'ai l'impression, je vais essayer d'être clair dans ce que je veux dire, que quand tu cherches le contrôle, t'es malheureux, et quand tu cherches la maîtrise, c'est là que t'es heureux.
Ouais, c'est vrai.
Et j'avais l'impression que c'est un peu ce que tu répondais à Kian. Est-ce que tu vois une différence entre vouloir le contrôle et la maîtrise?
Ah mais complètement, c'est complètement différent. C'est comme d'ailleurs cette phrase que j'adore qui va dans le même sens, c'est genre la perfection naît de la peur, l'excellence naît du cœur. C'est-à-dire que je mets la maîtrise dans l'excellence et la perfection dans le contrôle. C'est-à-dire que contrôle, perfection, il y a quelque chose d'un peu...
Tu tiens les gens.
Ouais, et puis t'es pas bien, quoi. Je veux dire, t'es tendu, c'est le contrôle, quoi. Tu vois? C'est le mental, c'est la peur, c'est tout ça. Alors que la maîtrise, l'excellence, je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est quelque chose de plus apaisé, tu vois. Et c'est souvent quand tu lâches prise que tu peux... On le voit bien, regarde, dans les grands sportifs, les, je sais pas, un danseur... C'est jamais en force, c'est jamais tendu, c'est la grâce de tout ça qui nous touche. Comme un grand acteur, on sent bien qu'il est émancipé du regard extérieur. Je sais pas, même si c'est peut-être pas le cas, mais il paraît complètement émancipé du regard extérieur, en lâcher prise totale.
Tous les grands sportifs qui flottent.
C'est ça.
Oui, puis en plus, dans l'aspect vivant de ce que doit être un live, puisque c'est son nom, j'ai l'impression... Quand on voit commenter sur scène, etc., que t'es pas dans le contrôle et que s'il y en a un qui glisse, juste tu vas l'engueuler après le spectacle et tout, tu vois, après le show et tout s'est effondré. C'est genre, t'es tellement en maîtrise que tu sauras gérer quelque chose de pas prévu ou quelque chose qui dure un peu plus longtemps, qu'il faut reprendre.
C'est ça.
On va se dire, ah, quelle maîtrise en fait.
Et c'est même, je vais te dire pire que ça, quand l'erreur est attendu avec excitation parce que tu sais que ça sera un plus. T'es convaincu que chaque erreur sera un plus pour le spectateur. Il y a même une panne.
C'est une belle vision de la vie, ça.
Parce que l'erreur,
ça peut servir à tout le monde qui nous regarde, qui entreprenne des choses, qui ont envie de réaliser des idées. L'erreur.
Tu maîtrises du mieux que tu. Si tu maîtrises, t'as pas peur de l'erreur puisque tu vas maîtriser. Mais si tu contrôles, t'as peur de l'erreur puisque tu contrôles plus.
C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est fascinant. Là, je sais pas, j'ai vécu des pannes de courant où tout d'un coup, tu dis, bon, il n'y a plus personne. Ça ne marche plus, quoi. Enfin, en plus, tu fais moins le malin quand tout d'un coup, tu as la guitare électrique. Puis tout s'arrête et puis en fait, il ne se passe rien. Non, c'est génial parce que ça te remet vraiment à ta place. Et là, tu prends ta guitare sèche et tu vas au milieu des gens et tu chantes une chanson et c'est le meilleur concert de leur vie. Tu vois, donc tout d'un coup, d'un truc relou, ça devient magistral même. Non, et tout est comme ça. Tu vois, quelqu'un, je sais pas, qui fait. Ou une intro qui marche pas, on arrête, on fait non, ça c'est poireux, on la refait. Les gens, ils adorent ça parce que c'est organique, c'est vivant, c'est live, comme tu dis. Ouais. Et je pense même, j'avais lu ça, en fait, ça m'avait fasciné dans des écrits taoïstes. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Tao d'ailleurs, mais parce que j'ai toujours été très inspiré par ces trucs-là. Et
c'est quoi taoïste, pardon?
Oui, alors le Tao. C'est une philosophie chinoise ancestrale, tu vois. Et c'est donc des petites poésies comme ça de vie, quoi, que je vous invite à lire, le Tao Te.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Cooking, qui est un livre vraiment ancestral. Et donc, c'est vraiment des choses qui m'ont... Tu vois, j'ai appris... Déjà, je me suis perfectionné souvent à la guitare, plutôt avec des écrits philosophiques qu'avec des gammes, quoi. J'en ai une, par exemple, qui m'a vachement marqué. C'était genre, percevez le minuscule. Voilà la clairvoyance. C'est un peu ce qu'on disait sur le détail. Gardez la douceur. Voilà l'énergie. Ce qui va très bien à Navo.
Quelle énergie.
C'est vrai que t'es doux.
Quelle énergie.
Tu insultes de l'énergie.
Voilà, une phrase qui m'a vachement inspiré dans le jeu de la guitare. Parce que c'est vrai que quand tu joues en force, ça écrase le son. Mais un truc par rapport à cette histoire de maîtrise, c'est ils prennent l'exemple du vélo. Et ce que j'adore, ce truc qui m'a marqué, c'est quand on maîtrise vraiment quelque chose qu'on l'oublie. Et c'est au moment où on l'oublie qu'on le maîtrise. Et donc, c'est. Et le vélo, c'est le bon exemple. C'est quand tu as oublié de savoir que tu fais du vélo que tu sais en faire. Et c'est pareil avec la guitare. C'est quand tu as oublié de jouer que tu sais jouer vraiment. C'est quand tu oublies. Et je crois beaucoup à ça, que c'est dans l'oubli, en fait, qu'on maîtrise les choses.
C'est là. Mais l'oubli demande beaucoup de répétition.
C'est ça, c'est ça.
Beaucoup de. Ah, c'est complètement ça. Tu as passé énormément de temps chez toi à bosser.
Ouais, beaucoup. En tout cas, adolescent et tout, je passais ma vie à reprendre des solos de guitare, des riffs, des machins, tu vois. À l'époque où il y avait encore des vidéos, tu sais, où tu avais des vidéos d'un Hendrix.
Tu avais les guitares parts de Jean-Luc Rebillard.
Oui, évidemment.
Tu te rappelles de ça ou pas?
Oui.
Les guitares parts.
Ah, oui, oui.
Ça, c'est vraiment une dédicace aux gens qui ont grandi dans les années 90, qui ont travaillé la guitare dans les années 90.
Évidemment, évidemment.
Est-ce que c'est toi qui disais que tu isolais à l'époque où la stéréo était mal maîtrisée sur des disques un peu des Beatles, etc., où vous allez foutre une guitare complètement à gauche et tu t'étais rendu compte qu'en mettant que la gauche,
c'est ça.
T'avais que la guitare et tu pouvais écouter...
Ah, ça, c'est génial, parce que c'est l'époque du 4 pistes. Les Beatles, au départ, c'était en mono. Donc après, il y a eu la stéréo juste 2 pistes, après 4 pistes et tout ça. Et ils avaient ce truc génial qui est fascinant.
Une piste, c'est une voix. On enregistre voix ici, après on enregistre la batterie, c'est une deuxième piste. La troisième piste, c'est la guitare et la quatrième, c'est la basse, par exemple.
Exact. Mais puisqu'à l'époque, il y avait donc moins de pistes, ils devaient faire des prémix. Donc ils mettaient batterie, tambourin, basse sur une piste et par exemple, violon, guitare, voix sur la deuxième. Et donc effectivement, ce qui fait que c'était deux stéréos avec des instruments différents, mais vraiment complètement dissociés. Et donc, si tu mets qu'une enceinte, tu pouvais entendre bien le tambourin, la batterie et la basse, parce que tu n'as que ces pistes-là. C'est rarement un instrument, mais c'est un groupe d'instruments. Et donc, ou alors, tu mets l'autre côté et tu n'as que les chœurs tout d'un coup. Et tu entends les harmonies vachement bien. Donc, c'était génial.
Est-ce que tu avais fait une espèce de leçon interactive? Je crois que je t'avais entendu parler de ça à cette époque-là.
Oui, c'est sûr.
Tu étais interviewé parce que tu faisais une... Tu avais proposé toi-même
des leçons de,
de guitare.
C'est ça.
De musique en général ou de guitare, je me souviens plus.
Non, de musique, effectivement. C'est puisque j'ai le côté un peu multi-instrumentiste et que sur mes disques, je joue souvent pas mal d'instruments. Avec ma sœur Émilie, on avait décidé de faire un DVD de leçons de guitare hyper interactif, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque et qui faisait qu'on avait les petites partitions qui passaient en direct en même temps et moi qui passais d'un instrument à l'autre avec l'écran coupé en plus. Tu sais, à l'époque, tu pouvais passer d'un écran à un autre, avoir plusieurs à la fois, isoler les sons. C'était assez révolutionnaire.
C'était des options du DVD que personne n'utilisait jamais.
C'est ça.
Le multi-angle et le multipiste.
Exactement.
C'est ça. Ouais. Ce qui est aujourd'hui, d'ailleurs, parce que c'est vrai que maintenant, on est complètement bombardé, mais de manière positive, de tutos. Tu vois n'importe quelle chanson, tu dis, tiens, il y a le tuto de cette chanson.
Ouais, c'est vrai.
Ce qui est quand même une chance.
C'est fou.
Mais à l'époque, ça n'existait pas, tout ça.
C'est
et c'est là que tu vois, d'ailleurs, c'est intéressant, que les musiciens talentueux de la jeune génération, d'ailleurs, là, j'ai vu récemment le concert d'Ibrahim Maalouf avec des jeunes de 25 ans qui jouaient comme des dieux. Ils ont une vision très, très 360 de la musique parce que ces tutos, ces trucs, je ne sais pas si ça vient de là.
Ils ont pu s'intéresser à un peu tout, quitte à choisir ce qu'ils aiment, mais ils ont pu se renseigner sur tout.
Et ça s'entend. Sur les mecs qui bossent vraiment, c'est très, très différent des gens de 25 ans de mon époque. C'est assez impressionnant.
Oui, d'ailleurs, on le voit même dans le stand-up, les jeunes sont de plus en plus forts. Techniquement, ils ont on voit même dans la danse hip-hop. La danse hip-hop aujourd'hui, avant la base, avant le maximum, c'était de faire ce qu'on appelle une vrille, c'est-à-dire sauter en l'air, se retourner. La vrille, c'est devenu un standard. Et quand tu commences la danse, au bout de 3 ans, t'as la vrille, quoi. Tu vois, et en fait, tout a monté, quoi. J'ai l'impression que c'est comme le tennis aussi, c'est devenu beaucoup plus intense, c'est plus fort, tu vois.
C'est comme l'arrivée des making-of pour les réalisateurs.
Ouais.
Tu vois, notre génération, on est les premiers à avoir eu des making-of.
C'est ça.
Où t'avais une heure de David Fincher qui s'explique comment il a fait Fight Club. C'est pas mal quand même.
Ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est fou.
Seven, moi je regardais le truc de Seven. J'ai découvert ce que c'était l'étalonnage dans les bonus du DVD de Seven.
Il y a un truc qui me séduit aussi, je pense que c'est aussi le fait que tu collabores avec Émilie, et c'est toujours d'être un peu à l'avant-garde de quelque chose, d'une technologie ou d'une envie. C'est-à-dire tu fais toujours un truc qui n'a pas été fait. J'ai l'impression que t'as toujours un truc, par exemple, qui... Il y avait toujours un truc un peu sympa dans ton... Il y avait un truc caché dans ton album. Il y avait un livre avec des... Il y avait un strip.
Oui,
je me rappelle, il y avait des petits trucs comme
vrai,
ça. Pareil, le multi-angle pour... Enfin, comme toutes les
le multipiste pour des leçons.
Le multipiste pour les leçons dans un DVD, dans plein de choses. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Alors, est-ce qu'on va te voir sur TikTok à un moment donné? Parce que TikTok, c'est quand même le nouveau bastion, la nouvelle...
J'ai mis un petit doigt de pied dedans à un moment.
Ouais.
Il y a ce côté où c'est quand même quand tu mets le doigt dedans et que tu es d'une autre génération, c'est vraiment assez agressif, quoi, parce que tu fais waouh, là, le flow du truc, c'est waouh. je sais pas, ça m'a fait un peu froid dans le dos. D'un autre côté, c'est très excitant aussi parce que c'est un outil très ludique. Enfin, et en même temps, je suis un peu sur les Instagram, les trucs comme ça, tu vois. Mais
t'es bien sur Instagram, oui, d'ailleurs. Oui, oui. T'es une vraie.
C'est sûr que j'adore. Et puis c'est assez ludique, c'est marrant et en même temps très très addictif à la fois. Hein. C'est vrai que c'est quand même troublant. Donc je suis un peu méfiant et en même temps attiré. Tu sais, je suis un peu dans l'entre deux. Mais ce qui est sûr, pour revenir sur ce truc d'innovation, si on peut dire, c'est peut-être pas le mot, mais de toujours essayer de chercher, d'expérimenter. Je crois que c'est ma philosophie, c'est la philosophie de M. En tout cas, c'est ce qui m'inspire quand je... Tu vois, je me rappelle très bien que quand j'ai fait mon premier album, je me disais, mais c'est génial, en fait. Et d'ailleurs, ça s'entend vachement sur le baptême, le premier disque, c'est que... Mais en fait, c'est mon disque, donc... Parce qu'il faut savoir que j'étais donc guitariste, musicien pour plein d'autres gens. Donc, t'es quand même au service des autres, t'essayes de bien être à l'écoute, de faire ce qu'il faut. Mais donc, t'as une certaine liberté musicale, mais pas plus. Et là, tu disais, mais c'est génial, c'est-à-dire que là, c'est mon disque. C'est-à-dire que si je veux, je peux arrêter la chanson au milieu, faire comme ça et reprendre. Enfin, tu vois, et j'ai fait plein de choses comme ça, où je me disais, mais alors, qu'est-ce qu'on n'a jamais fait sur une chanson? Bah tiens, de faire...
Du casou.
Ouais, par exemple. Alors, ça peut être des instruments, mais ça peut être même dans des structures, de dire, bah tiens, là, tout d'un coup, je vais et je sais que j'avais ce truc très grisant de me dire, bah tiens, je vais faire des trucs qu'on n'a pas le droit de faire généralement dans une chanson. Ça. Et donc, c'est resté. Et donc, c'est que ce soit sur un concert, un concept, un visuel, un clip ou je sais pas quoi. C'est pas forcément pour dire c'est moi qui l'ai fait ou ça s'est jamais fait avant. C'est juste le côté
pionnier, un peu excitant.
Ouais, et puis liberté de se dire, bah tiens, on le fait pas, bah on va le faire, alors c'est génial. Enfin, tu vois, c'est ce truc de dire, bah là, j'ai l'autorisation de le faire, donc tout est possible. Ça, c'est quand même...
Oui, j'ai l'impression que vous avez un peu ça en commun, c'est que ça part pas vraiment de... Bon, c'est quoi le truc foufou qu'on
les
va
jeunes.
Trouver pour
c'est
que
quoi les jeunes
pour que les gens
c'est
en parlent
ça, c'est quoi les jeunes
c'est plus dans une forme de liberté, une remise en question de dire, qu'est-ce qui nous empêche? Je pensais à un truc, mais qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on pourrait pas...
Oui, c'est ça.
Et en fait, là, il y a... En tout cas, moi, les quelques fois où je t'ai vu travailler et les nombreuses fois où je t'ai vu travailler, c'est un peu le même truc. C'est-à-dire qu'en face de toi, tu te retrouves avec quelqu'un qui t'explique pourquoi on le fait pas. Tu dis, mais si on faisait comme si... Non, et si on faisait comme ça. Mais du coup, si on peut y réfléchir, on en reparle demain. Et on dit, j'ai repensé à ton truc, là. Mm. En fait, on pourrait le faire, mais comme si et comme ça. Et en fait, c'est une espèce de remise en question d'un statu quo où, en fait, on se demande même pas pourquoi on le fait pas. Tu vois, ouais. Un peu comme, tu vois, de... Et pourquoi on
change... Je me rappelle, par exemple, quand on a fait Pulsion, le spectacle qui était venu d'ailleurs faire...
J'ai adoré ça.
Bah, pareil, on voulait faire un... J'avais fait un numéro avec un écran, je sais pas si
c'était
avec
bien.
Un écran. Et à un moment donné, on arrive à l'européen, on fait descendre l'écran, on dit, bah voilà, ça sera pour l'écran, on fait les marques et tout. Mm. Je me dis, on l'a déjà fait, c'est basique. C'est, je sais pas, c'est... Oui. Même si c'est excitant,
ouais.
Même s'il y a plein de choses à faire, je trouve ça basique. Je suis... Au fond de moi, je ressens un truc un peu genre...
Oui.
Et après, on me dit, il y a cette idée qui pop, dire, attends, on va faire un t-shirt et on va tout faire sur le t-shirt.
C'est génial.
Et du coup, je vais pas
je
bouger.
Je pense que c'est passé par des... mais dans le clip de... Je crois que c'était Justice.
Ah oui,
ils avaient un t-shirt.
Ils le font dans leur clip. Pourquoi on le fait pas sur scène?
C'est ça.
Parce que sur scène, il faudrait que la caméra elle puisse te suivre en temps réel.
Ah oui, c'est ça.
Tu sais, c'était que des allers-retours de ça. Mais attends, mais si on bouge pas, du coup...
Ah oui, oui, oui.
Si on bouge pas, je deviens juste un écran si j'ai un t-shirt blanc.
C'était une super
Donc on peut faire un peu comme dans le clip de Justice, mais sur scène. Là, ce serait possible sans qu'il y ait besoin de caméras ultra sophistiquées, encore plus pour l'époque, de projecteurs ultra sophistiqués qui vont te détecter et te suivre.
Et puis ça raconte. Et puis en plus, c'est ça qui est génial, c'est que parfois on se rend même pas compte, mais ça raconte beaucoup de. Tu vois que ça se passe au niveau du ventre et tout. Enfin, je sais pas, c'est...
Ah, mais en plus, c'était vraiment un ressenti.
C'est
de...
ça.
Oh, ça m'amuse pas. Ouais. De faire un truc sur un écran, alors que c'est génial, tu peux tout faire, tu peux transporter les gens avec un écran, mais
ça
m'excitait pas. Ouais. C'était genre, non.
Et ça, c'est aussi les contraintes, tu sais, ce truc de contrainte, de dire, ben ça, de s'interdire certaines choses, et souvent, on est extrêmement créatif. C'est comme les fameuses erreurs, quand tout d'un coup, t'as plus d'électricité, ben tu vas inventer autre chose, ou quand t'as... Je crois que c'est hyper important, ça, je crois beaucoup à ça, de se mettre des contraintes. C'est comme quand on fait un album, souvent on se dit, ben tiens, on va utiliser ce genre d'instrument où on va enregistrer d'une certaine manière. On se fait des règles du jeu et elles sont hyper créatives. Parce que c'est vrai que c'est le danger de la technologie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui tout faire, tout trafiquer d'ailleurs. On peut tous chanter très, très bien sur un disque, hein, je veux dire maintenant. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'on arrive quand même dans un... C'est là qu'on voit le délire humain. c'est qu'on arrive à une époque où il faut chanter mal pour que ça fasse bien faire l'autotune, tu sais.
Ouais, donc, mais justement, c'est là que j'allais te rejoindre là, je pense. Parce que tu disais, parce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves, pour peu que tu sois curieux, et toi, tu as quand même un truc où tu as vraiment très envie de faire des choses, comment dire, très visuellement impactantes sur scène, etc. Tu peux vite te retrouver avec une agence, enfin, 4 agences, 5 créatifs qui te disent « Alors, on peut faire 3 robots, 11 nuages, tu te transformes, tu te téléportes, et au bout d'un moment, tu peux perdre le « Mais pourquoi, au fait c'est quoi le rapport avec le morceau ?» Parce que le morceau, ça ne parle pas de ça, ni rien. Et d'essayer de ramener à... J'ai l'impression qu'il faut quand même que ce soit toujours au service du propos. Ouais, moi, je vois des fois, on se fait attraper par un truc, on dit « Waouh, ça, c'est vraiment impressionnant !» Mais il faut être en capacité de dire « Oui, c'est impressionnant, mais ça n'a aucun lien avec le propos. »
C'est ça.
Tu vois, par exemple, Capta de stand-up, souvent, il y a trop de changements de plan, de caméra, de grue, de machin. Oui. Et tu dis « Non, 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 en fait, oublie pas, là, c'est une blague, et la blague, elle est marrante, donc le gars, tu vas faire ça. »
C'est ça, c'est ça.
Et t'écoutes la blague. Et du coup, est-ce que toi, tu arrives à gérer ce truc-là, ce truc de « Attends, là, je suis peut-être en train de mettre du sucre sur du miel, sur du sucre sur du miel. » C'est hyper beau ce qui se passe sur scène, mais on ne voit même plus, il n'y a même plus vraiment la musique. Les gens sont en train de regarder un show.
Mais alors, c'est pour ça que c'est important, et d'une part, d'avoir... d'être hyper connecté à son instinct, d'avoir aussi des gens de confiance. Je pense à Austin, qui est mon grand ami, qui est toujours avec, qui me suit depuis 15 ans sur scène, depuis la tournée de Vanessa Paradis, et qui est souvent dans la salle, qui est mon regard extérieur. Et souvent, je lui dis, mais là, qu'est-ce que t'en penses là? Parce qu'il a un vrai feeling, quoi. Il sent vraiment les choses. Et sans être du tout un professionnel de la profession, ça que j'aime bien, c'est qu'il est dans quelque chose de beaucoup plus presque spirituel, quoi. Et en même temps, je pense à Jérémy Lippmann, qui est vraiment metteur en scène, qui m'a aussi donné un vrai recul, qui me disait, là, c'est super, mais je trouve que là, tu devrais enchaîner plus vite, ou cette chanson, je ne sais pas si elle a vraiment beaucoup de sens, ou là, peut-être, il y a trop de décor. Enfin, bref. Donc ça, j'ai besoin quand même de ce... Tu vois, comme vous deux, j'imagine que c'est hyper important. On est seul, on ne peut pas avancer. On peut avancer, mais pas aller très loin. Je crois beaucoup au collectif aussi. Et en même temps... aussi au côté très artisanal, c'est-à-dire que c'est comme ça me rappelle des gens qui me disaient à l'époque c'est super mais puis t'as un super marketing hein. Tu vois, tu fais marketing, bah, je sais pas, ton image là, le marketing et tout, ouais, enfin c'est juste que j'ai des idées visuelles quoi, mais tu vois, c'est,
et qu'elles viennent de toi,
voilà, parce que les gens pensent toujours que c'est quelque chose de
mais c'est vrai que c'est un super marketing, mais dans le sens où le marketing qui existe dans ton métier est au service de toi au départ.
Bah, complètement.
Et je pense que souvent quand les gens disent ah waouh, là, c'est un super coup marketing, c'est vraiment du marketing. Ça, c'est du bon marketing. 99% du temps, tu te rends compte que c'est un marketing où des gens sont très efficaces, très bons dans leur métier, mais ils sont au service de l'idée de départ. Ils ne vont pas t'emmener quelque part parce que c'est le truc marketing du moment.
Et je pense que d'ailleurs, les plus grands artistes qui nous ont marqués, parce que là, j'étais donc au Musée Grévin hier, bon, c'est con, mais j'étais à côté de Michael Jackson, Elvis, Elton John, et souvent certains, ils ont c'est les fringues qu'on leur a, tu vois, vraiment des artistes et tout. Donc, bon, alors il y en a qui sont plus ou moins bien faits, mais en tout cas, t'es quand même dans l'énergie, l'univers de chaque artiste. Et je suis sûr que tous ces gens marquants, ça venait d'eux à 100%, quoi. C'est pas genre quelqu'un qui dit, tu mets cette veste et tu. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai plus tendance à parler de l'image et tu vois, du côté iconique que du marketing, qui me fait toujours un peu froid dans le dos, parce que ça veut dire que c'est un peu mercantile. C'est toujours assez délicat aussi, ce truc, tu sais, où le show business, c'est-à-dire quoi, du business, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc d'argent. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas les disques encore, il n'y avait pas tout ça. Je vois, la musique, je la vois quand même comme quelque chose de plus sacré que ça, quoi. Tu vois, je trouve que dès le moment où faire de la musique en disant c'est pour gagner de l'argent, tu vois, tu dis ouf. Là, on est déjà dans une déviance assez forte. J'ai cette chance incroyable d'être né dans un milieu artistique où je n'avais pas du tout la motivation. Moi, ma seule motivation était d'essayer de faire des chansons, d'inventer un univers. Mais je n'ai jamais eu l'optique de me dire, tiens, je vais me faire plein d'argent là-dessus. Enfin, dès le moment où j'entends des gens qui viennent me parler comme ça, ça me fait toujours froid dans le dos, quoi. Je pense qu'on ne parle pas le même langage.
Pour le marketing, il y a un truc aussi, c'est que la dérive du marketing aujourd'hui, c'est que le marketing de la publicité s'inspire de marketing des artistes, parce que le marketing des artistes, c'est l'authenticité et la sincérité d'un artiste qui fait que une idée devient virale, dans le sens où un artiste décide de, par exemple, je ne sais pas, on n'a qu'à dire Nirvana, par exemple. Nirvana, c'est extrêmement viral. Tu vois, quand ça sort, ça fait un effet mondial, tu vois. Donc, tu as les vendeurs de ketchup qui disent, mais... et si je faisais « Et il aime le ketchup, le mourra. » Tu vois, ils se disent « On va connecter les deux trucs et on va prendre, tu vois. » C'est ça, pour moi, le mauvais marketing, c'est devenu un... Alors que le marketing, à la base, c'est pas... Marketer quelque chose, c'est parce qu'il y a un produit à vendre, c'est vrai.
Ouais.
C'est... Mais c'est vrai qu'à la base, c'est viraliser une authenticité, quoi.
C'est ce qu'a tué, d'ailleurs, Kurt Cobain, je pense. Enfin, tu vois, de tout un coup, devenir un produit...
Oh. Non, je crois que c'est son suicide. Hein.
Oui, je crois que c'est son suicide. Ça a été connecté à son suicide, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que ça a été connecté à son suicide.
Je crois pas que c'est le marketing, je suis pas sûr. J'ai peut-être me trompe.
Non, c'est vrai.
Non, c'est moi, j'ai fait une confusion.
Oui. oui, mais en fait, ça rejoint. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Ça veut dire que tout d'un coup, on va te dire, bah non, mais il faut faire du Nirvana.
Ouais.
Donc le mauvais marketing, c'est quelqu'un qui vient qui dit, mais arrête avec ta folk. Là, c'est Nirvana maintenant. En fait, ceux qui tiennent longtemps dans ce qu'ils ont envie de faire, comme ils ont envie de le faire, en vérité, c'est ceux qui au final vont tenir le plus longtemps.
Je pense aussi à Jan Tiersen que j'ai bien connu à l'époque, à ses débuts, parce qu'on avait le même manager tourneur. Enfin bref, et qui est vraiment le gars le plus authentique possible, tu vois, un vrai, vrai fou de musique et tout, et qui était souvent d'ailleurs assez très touchant à la fois, mais très timide et donc un peu froid quand on le voyait. Je me rappelle, je croisais souvent dans des... On faisait souvent les mêmes genres de salles et tout. Et il était adorable, mais très, très timide. Et puis tout d'un coup, il fait la musique, j'allais dire presque par hasard, d'Amélie Poulain, tu vois, où c'est cool, quoi. Mais ils prennent, tu vois, ces morceaux qui existent depuis longtemps déjà, hein, qui sont des... un truc très confidentiel de disques que personne connaît bien, mais tu vois, qui sont super beaux.
Qui n'appartiennent absolument pas au courant d'un style en 2000.
C'est ça, c'est ça.
Tu vois, personne n'écoute ce genre de musique.
Oui, c'est pas dans l'air du temps. Et puis, Jean-Pierre Jeunet qui flash là-dessus et qui dit, bah, tiens, ça colle vraiment bien au sujet. Donc voilà, je me rappelle, c'est Charles Benzman qui était mon tourneur-producteur qui a fait le lien. C'est même lui qui a choisi avec le réalisateur les chansons de Yann et tout.
Du coup, je découvre les thèmes, ou le thème principal d'Amélie Poulain, celui qu'on connaît le plus, n'a pas été écrit
pas
pour
tout.
Amélie Poulain
pas
par
Yann Tiersen. C'est des morceaux qu'il avait fait sur ses albums déjà.
D'accord,
et en fait, le mec,
et après, ils l'ont re...
Oui, il a choisi, je crois, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est sur deux albums à lui, il a pris les chansons qu'il trouvait les plus jolies, tu vois.
Okay.
Après, peut-être qu'ils ont réarrangé, mais je suis même pas sûr, je crois que c'est les versions originales de l'album, je crois, hein, je veux pas... Mais, et donc, c'est dément. Et donc, le mec, tout d'un coup, alors qu'il a rien demandé, il est content, quoi. Ok, super, dans un film et tout. Mais tu vois, et le truc devient phénoménal, vraiment, c'est impressionnant. Et ça devient mondialement connu, tu vois, alors que le type... Et je me rappelle qu'il vivait ça extrêmement mal, quoi. D'ailleurs, à tel point qu'il faisait des concerts, les tournées d'après, où il faisait même pas, évidemment, une chanson, une musique de ces trucs-là, ça le rendait fou.
D'accord,
il faisait des trucs
rejet,
super,
quoi.
Même des trucs un peu dissonants, les gens, ils jouaient... Enfin, j'exagère, mais ils jouaient de dos. Enfin, tu vois, les gens étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il était dans un... Ça l'a angoissé terriblement.
Tout ça. Amélie, Amélie.
Bah évidemment.
Ah ouais, écoutez ça.
C'est ça, ouais, je te jure.
Ouais, c'est marrant. Parce qu'en même temps, pour lui, c'était pas ses morceaux du moment.
Si, non, mais ça.
C'est pas les trucs qui.
Tu sais, c'est un peu. On est toujours un peu contradictoire. Je crois qu'il devait être assez content quand même que toute sa musique soit connue par plein de gens. Et en même temps,
mais la
agacé.
Peur d'être que le mec d'Amélie Poulain.
Bah évidemment, évidemment. Ouais. Mais voilà, c'est ça, c'est toujours très ambigu.
Je propose un petit jeu.
Ouais.
Un jeu qui s'appelle le multi-blind test.
Ah, multi-blind test.
J'ai peur.
T'aimes les blind tests ou pas?
Je suis assez mauvais en blind tests.
Alors ça va être... Alors, j'espère te mettre quand même à l'honneur. Mais l'idée, c'est que le blind test solo, bah, c'est trouver une chanson. Là, il y a six chansons en même temps.
Ah, putain.
Donc, c'est une cacophonie totale. Donc, c'est ce qu'on appelle une crise d'angoisse. Est-ce qu'il n'y aurait pas Aga de Feeling des Black Eyed Peas?
Et il y a Aga de Feeling.
Toi, t'es bon, toi. Vous êtes fou.
Aga de Feeling.
Putain.
C'est le gimmick. En fait, faut que ton cerveau...
Ouais, donne-moi une issue, là, parce que...
Putain, faut que ton cerveau, en fait...
Mais comment? C'est impossible. Vous arrivez, vous?
Comme c'est moi qui l'ai fait, j'ai jamais joué à ce jeu. Moi, je connais les morceaux. Il faudrait que j'en mette un vieux et que j'essaye.
Non, t'as jamais fait, quand même. T'as jamais essayé.
Bah, le problème, c'est que je vois les noms.
Ouais, c'est ça. Bah oui, non, c'est sûr. Là, attends, non, mais là,
on ne sait pas, tu vois, si Julien Le Perse, s'il est très cultivé ou juste il s'affiche, tu vois.
Allez, on y retourne.
Oh là 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 là. Ah oui, ça y est, j'en ai un. Je vais y arriver. C'est Damon Albarn, Blur, je crois.
Gorillaz.
Ah non, Gorillaz, c'est ça.
Gorillaz. Il y a Clint Eastwood, Gorillaz.
Ah, y a pas un Booba?
Il y a Booba.
Il n'y a pas DKR de Booba.
C'est Boulbi de Booba.
Boulbi de Booba.
Plus que 3.
Ah. Ah oui. Ah oui, ok. Oui, il y a Balavoine, ouais. Sauver l'amour de Balavoine.
Il y a
ouais.
Sauver l'amour de Balavoine. Il n'en reste plus que deux. Quand il n'en reste plus que deux, il faut trouver les deux avant de parler.
Deux d'un coup. Est-ce que ça te plaît comme jeu ?
C'est assez chiant. Ouais, c'est assez mignon. Ce qui est bien, c'est qu'on ça devient plus clair. Enfin,
ouais. Ça. Quand il en reste deux, normalement, ça peut aller vite. Il faut juste les connaître, quoi.
Ok.
Ok. Oh. Ok. Ok, ok. Ah merde. Ok, ok, c'est bon, ok.
T'as les deux ?
Ok, ouais. Ouais, Indochine. J'ai demandé à la Lune, c'est ça ?
Ouais.
Ah merde, et c'était pas Natacha Saint-Pierre ?
C'est Natacha Saint-Pierre. Alors, tu trouveras la réponse à ce blind test. C'était ça la suite.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Mathieu, dans la vie ? Ou un conseil qui t'a valu un vrai.
Oui, oui. Ah, écoute, il y en a un que j'ai adoré de Charles-Élie Couture. Vous connaissez Charles-Élie Couture ?
Il est dans la bio Wikipédia, il est en bleu aussi.
Ah, super. Et donc, je faisais ses premières parties. Et il avait été très, 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 très motivant. Enfin, tu vois, il me découvrait et tout. Alors déjà, non, la première fois, c'était drôle parce qu'il s'était fait une inquiétude pour moi. Parce que lui, Charles-Élie Couture, il me disait, personne n'a vraiment se rappelait de mon prénom. Il me disait Charlie la Couture et tout. Donc, fais attention pour l'identité artistique. M, les gens ne vont jamais se rappeler de toi. Donc, il faut absolument que tu trouves autre chose. Donc, à mon avis, rappelle-toi, Mathieu. Il m'a mis un doute énorme. C'était à mes débuts. J'étais, oh putain, merde. Et je me rappelle, je ne dormais plus de la nuit. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, je me disais, peut-être que je ferais M sur le premier album, M-A sur le deuxième. Et petit à petit, je ferais mon prénom. Enfin, bon, bref, donc ça, c'était un truc qui m'avait un peu fait flipper. Mais sinon, il m'a dit un truc génial. Il m'a dit, voilà, pour moi, c'est très simple. Quand tu fais un premier album, c'est un point dans l'univers. Donc, à partir de là, tout est ouvert. Quoi. Tu donnes un message, mais tu peux encore avoir beaucoup de liberté. Quand tu fais un deuxième album, tu crées une ligne et une direction qui assez précise, qui donne un chemin du point A au point B. Mais attention, parce qu'à partir du troisième album, tu crées un espace, un triangle, et tu as un espace créatif. Et à partir de là, en général, tu ne pourras plus en sortir. Donc, plus les points seront éloignés des uns aux autres, plus ton terrain de jeu sera grand.
C'est extrêmement intéressant. Hein.
Et brouille les pistes un peu, quoi. Plus tu brouilles les pistes dès le début.
C'est intéressant parce que j'avais jamais pensé au fait que c'était un triangle. Qu'en fait, effectivement, tant que c'est une ligne, ça va. Mais à partir d'un triangle, tu as triangulé un truc.
C'est ça.
On sait que ton genre, il est là, quoi.
Ouais, j'aime beaucoup cette idée-là.
Ouais, c'est super.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vachement. La trilogie, tu vois, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai fait mon premier, ça s'appelait Le Baptême, le deuxième Jeudi M et le troisième Qui de nous deux. Donc j'ai essayé, j'ai jamais resté, donc ces points les plus assez larges. Et d'une certaine manière, après cette trilogie, je me suis dit, bon, bah ça. Je peux complètement. Ça y est, j'ai mon triangle, donc je peux partir complètement ailleurs. Et c'est là où j'ai fait Mister Mystère et j'ai un peu tout cassé en noir et blanc et que j'étais dans un truc plus confus d'ailleurs, mais comme si tout d'un coup je pouvais sortir de cette trilogie, tu vois.
Comment tu fais pour aller mieux ? Pour aller bien. Écoute, et c'est quoi aller bien ?
Ouais. Aller bien, c'est, je pense, être en accord avec soi, être confortable. Et en fait, c'est souvent le bon test, c'est d'être seul avec soi-même aller bien, c'est en fait d'apprécier le silence. Par exemple, on me dit souvent, c'est quoi la musique que tu écoutes en ce moment ? Bon, c'est vrai que puisque je suis dans une période assez active, je crois que ma musique préférée, c'est le silence. Et d'ailleurs, c'est un peu la quête du musicien, le silence, parce que c'est vrai que je pense à Miles Davis, je pense à des gens qui, tu vois, tout d'un coup, ils n'ont pas peur de faire une note dans l'espace et de laisser un peu d'air autour, quoi, de ne pas être dans cette peur de dire, la peur du vide, tu sais. Aller bien, je crois, c'est être bien avec le vide, avec l'espace, avec le silence et de ne pas être inquiet dans le silence. Et c'est vrai que j'ai cette chance inouïe, parce que je crois que la musique, c'est quelque chose qui t'accompagne aussi. Je crois que la solitude n'existe pas chez moi. Au-delà que j'ai plein d'enfants et que j'ai une vie très dense, mais même quand je suis seul, j'ai la musique avec moi, j'ai une guitare pas loin. Je ne sais pas ce que c'est que la solitude, vraiment, parce que je me sens toujours enrobé par quelque chose, par une inspiration, par une guitare, par un truc. Donc voilà. Et puis, aller bien, c'est aussi peut-être sûrement avoir une famille extrêmement présente, avoir des gens en bonne santé autour de soi, tu vois, une harmonie qui fait que... C'est vrai que j'ai, malgré le... Malgré tout ce qui nous entoure, hein, qui est quand même extrêmement touchant, attristant, angoissant, je suis quelqu'un de... Je suis un bienheureux, quoi. C'est-à-dire que je, en tout cas, à l'heure actuelle, je suis quelqu'un de...
C'est ce que tu dégages, en tout cas.
Ouais, mais je le suis.
J'en suis d'accord avec ce que tu dégages.
C'est ça. Je le suis complètement. Parce que c'est même un peu honteux, hein, de dire qu'on est heureux dans ce monde-là, parce que c'est vrai que c'est... Hein, tu te dis, bah, bon, mais quelle honte. Et d'un autre côté, tu dis non, bah, c'est... Non, parce qu'il faut bien des gens heureux aussi pour montrer l'exemple. Et c'est aussi une certaine dignité d'être heureux. Enfin, c'est de se dire que c'est possible et que c'est peut-être aussi... Peut-être un, ça demande peut-être un certain travail d'être heureux, je ne sais pas. En tout cas, je le fais... Ce n'est pas un effort, mais c'est une... C'est une philosophie, quoi. Je pense, et je pense que j'ai cette chance aussi. Ma mère est une femme extraordinaire qui a une joie de vivre hallucinante. Mon père aussi. Mes grands-parents. Enfin, tu vois, donc je crois que on est entouré de ça, quoi. On a des bons exemples. C'est vrai que ça c'est quand même incroyable. Et je crois aussi, pour finir, que il y a aussi un truc poétique dans la famille, tu vois. C'est une vision. La poésie, c'est quoi? C'est pas lire des poèmes, c'est une vision de la vie. C'est un prisme, tu vois. C'est voir les choses d'une certaine manière. Et ça, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là qu'on m'ait appris ça, quoi.
Et la drogue aussi.
Évidemment.
Et comment tu fais quand t'as un coup de mou pour aller mieux? Est-ce que t'as appris les petits trucs à cinquantaine d'années?
Ouais, c'est ça, 51 ans. Non, écoute, je suis... je crois que c'est toujours pareil. Quand j'ai un coup de mou, ça serait peut-être une surcharge, quoi, de... Tu vois, une charge mentale un peu trop excessive. Donc, c'est tout de suite... Tu vois, j'ai une petite cabane dans les arbres, là où je vais souvent. Ouais. Voilà, ma réponse, c'est toujours ça. C'est calme, du calme, de la nature aussi. Et du repos, en général. Parce que c'est vrai que c'est ma clé. C'est-à-dire que je me repose beaucoup. Je me repose beaucoup. J'ai besoin d'une bonne nuit. Je fais des siestes. Je ne sais pas si vous faites des siestes.
Énormément.
Et ça a changé ma vie. J'ai jamais fait un concert sans une sieste avant. Et donc, je pense que le repos me sauve aussi, tu vois. Mais c'est quand il y a trop de fatigue que tu finis par te perdre un peu.
On peut donner une astuce un peu vraiment aux gens, un truc très concret. Tu faisais pas de sieste, tu t'es mis à faire des siestes?
Oh, ça fait des années maintenant, ouais.
Ouais, mais des années, mais t'as commencé quand même.
Oui, c'est clair.
Il y a plein de gens qui ont dit, mais moi, je fais des siestes. Et tout, ils sont genre, je peux pas dormir 20 minutes.
Oui, c'est vrai.
Vraiment, ils sont en mode rejet. Genre, je dis, mais juste essaye. Genre, non, je peux pas.
C'est vrai.
Et donc, t'as envie de le dire, mais ouais. C'est quoi le truc qui t'a mis à la sieste? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait pratiquement? Parce que c'est vraiment un truc, après, tu te sens
bien. Oui, c'est ça. Non, je pense que les premières fois, tu sais, c'est un peu l'épuisement. Tu es vraiment fatigué. Ah oui. Donc, tu vas t'allonger 2 minutes en disant, là, il faut faire un petit break. Et puis, tout d'un coup, je crois que c'est aussi des natures. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours pareil. Hein, c'est lié au lâcher prise aussi. Si tu es trop en contrôle, tu ne fais pas de sieste parce que tu dis, non, mais là, de toute façon, je n'ai pas le temps. Et puis, il faut lâcher le mental et se dire... Et c'est parfois, effectivement, tu as raison, il y a des siestes de 5 minutes qui sauvent une vie.
Ah, c'est fou.
C'est pas forcément de faire des siestes de 2 heures. C'est celles-là, d'ailleurs, les plus dangereuses.
Elles sont dures. Après, tu sors, t'es là. Est-ce un rêve? Est-ce une réalité?
C'est un hommage à son album, du coup.
Comment?
C'est un hommage à son album, ce que tu viens de dire. Tu te réveilles et t'es en rivalité.
Ah, exactement. Putain, bien.
Est-ce que tu aurais un artiste ou une artiste à recommander? Quelqu'un qui t'a découvert récemment, qui va se dire, waouh, Mathieu, lancer un shout-out. Ça va être fou.
Ouais.
Mathieu m'a lancé
On peut lancer un shout-out? Shout-out. I got a shout-out to... Je sais pas, c'est quelqu'un parce que...
Si. Attends.
Okay, par exemple, moi, j'ai découvert, grâce à toi, Emma Peters. Grâce à toi. Emma Peters.
Ça me fait plaisir. Très elle est bien. Hein.
Et j'adore.
Écoute, alors là, j'ai envie de penser à une jeune artiste que j'ai croisée, que j'ai invitée à faire des premières parties, qui s'appelle Césarée. Mm-hmm. Et elle a une douceur incroyable. C'est une guitariste aussi. Elle a... Un vrai phrasé. Je l'ai vu d'ailleurs, je crois, j'ai commencé à la voir sur Instagram par des amis aussi qu'on a en commun qui la manage et tout. Et puis j'ai craqué sur cette personne, sa voix, son style guitaristique. Elle vient de sortir un album très récemment.
Okay. Césarée.
Ouais, Césarée. Elle est extrêmement douce.
Streamer ça fort, la commu.
Ouais, exact. Et surtout, elle est en plus humainement exceptionnelle. Mm-hmm. Et je fais un concert d'ailleurs à Meaux. Et en fait, je fais ce concert à Meaux où il va y avoir qui s'appelle les musicales. Donc le principe, d'ailleurs, dans une région qu'on connaît bien, le principe, c'est que c'est un festival féminin. Donc je vais féminiser à fond mon concert où je vais inviter pas mal d'artistes, dont cette jeune Césaré. Et une autre artiste s'appelle Colline Rio, qui aussi a une voix divine. Je ne sais pas si tu connais.
Non, ça, non ça mais on va découvrir. Aussi. On va découvrir.
Et puis d'autres encore. Mais... Et puis Chat aussi. Charlène. Charlène Juarez, qui est la compagne de mon frère Joseph, et qui est une pianiste divine. Mm-hmm. Et qui en plus a aussi un univers fou et qui a fait un album instrumental de piano, mais merveilleux. Pareil, elle est venue faire des premières parties, elle sera aussi à Meaux. Mais c'est vrai, c'est que des artistes que j'adore.
Chanté. Navo, tu veux recommander quelqu'un ?
Oui, elle est. Alors, je ne sais même pas si on dit Feldup ou Feldup. Je pense que c'est Feldup. Mais la chaîne Feldup, qui est une. Qui est un youtubeur qui plonge dans les.
Musique, non,
un youtubeur qui plonge dans les méandres d'Internet et de. Avec un petit côté un peu bizarre, horreur de tout ce qui est un peu caché, bizarroïde sur Internet. Qui a fait des très grandes. Qui fait parfois des vidéos très longues. Donc voilà, petit shout-out pour Feldup.
Non, non, il fait de la musique aussi.
Mais ça, c'est peut-être pas le même.
Si, si, c'est le même.
Ok, et eh ben, je découvre qu'il fait de la musique, mais je l'ai jamais écouté, donc je peux pas vous recommander sa musique par contre.
Mathieu, est-ce que t'as passé un bon moment ?
Ah ouais, vraiment.
Bon, cool. Tu reviens quand tu veux.
Merci.
De manière globale, si vous êtes sur cette planète et que vous connaissez Mathieu Chédid ou M, allez voir Mathieu Chédid sur scène au moins une fois dans votre vie parce que ça vaut le détour. Moi, j'ai vu Mathieu, même avec toute ta grande carrière, je l'ai vu dans des salles froides. C'est-à-dire où l'ambiance est à créer.
Ouais.
Tu vois, l'ambiance, elle est là. Bon, les gens, ils sont là, ils sont contents d'être là.
Ouais.
Mais il faut les réunir et en grand professionnel de dire, allez, on y va. Non, je veux plus. Allez, je veux. Voilà, on donne plus. Voilà, là, il y a une ambiance. Là. Et après, les gens sont complètement ouf. Ils sont genre, ouah, ça chante dans tous les sens. Plus personne ne se regarde. Tout le monde est en train de donner. C'est c'est kiffant.
Et d'ailleurs, tu étais sur scène plus d'une fois, non ?
Ah, bah, à chaque fois, il y a un délire. C'est un vrai kiff avec à chaque fois de monter. Ouais, c'est toujours un vrai kiff de monter sur scène avec toi.
C'est un bonheur.
Il y a aussi l'album Rivalité du live qui allait streamer ça ou allait offrir ça pour streamer les fêtes de Noël. Non, mais les fêtes de Noël, c'est un beau cadeau pour les fêtes de Noël. Et puis sinon, on peut découvrir plein de choses sur ton Instagram. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, non, je disais qu'il y aura un vinyle aussi. On aime bien faire des objets, comme tu disais.
Bien sûr.
Et là, il va être très, très beau avec un. Enfin, bref.
De toute façon,
tu fais une forme un peu, ça va être un vinyle découpé. Non, mais ça va être un vinyle découpé ou...
Non, mais c'est parce que tu sais, il y a un œil que sur cette tournée. Et donc, c'est à l'heure à chaud et tout ça. Et l'image est assez arty, assez belle. C'est Yann Oran, qui est un pote de toujours, qui m'a fait cette pochette sublime. Mais oui, moi, c'est vrai que je suis fasciné par les objets. Je me dis toujours, mais qui achète des disques aujourd'hui ? Vous en achetez, vous ?
Des vinyles.
Ah, c'est ça, hein.
Bah ça dépend, ouais, faut que ce soit l'objet en lui-même qui ça, prend une certaine importance, voilà. Parce que si c'est juste un truc moins pratique mon téléphone, j'ai pas trop de raison de l'acheter. Quoi.
Ouais. Et je comprends pas d'ailleurs les gens qui achètent encore des CD, tu vois, qui sont quand même, ça peut être un bel objet, mais tu vois.
Parce qu'ils ont des lecteurs CD dans leur voiture.
Ouais, mais c'est fascinant.
Mais sinon,
il n'y a plus que eux.
Ouais.
Acheter un CD, c'est pour le donner. Moi, je c'est pas pour l'écouter.
Oui, c'est ça.
C'est pour acheter un CD, c'est pour l'offrir à quelqu'un.
Après, c'est beau d'avoir l'objet aussi, tu vois, mais c'est toujours une. Mais
il faut que l'objet soit objet, tu vois ce que je veux dire ? Si c'est juste une boîte en plastoc avec une feuille carrée dedans.
Une feuille carrée.
Non, mais tu vois,
c'est
la vieille feuille carrée.
Dans les années.
Tu ranges dans les bouts de plastique.
Ça arrivait quand à l'époque où le CD est sorti, tu étais trop contente d'acheter un CD. Et en vrai, des fois, je me souviens vraiment, c'était un simple feuillet dedans.
C'est vrai.
Et le truc transparent, avec juste écrit en noir l'album que tu as acheté. Ça n'existe plus maintenant. Il faut que ce soit un objet, il faut qu'il y ait un livret, il faut que tu aies un truc qui s'ouvre. Tu vois, maintenant tu dis je l'achète, si quand je l'ouvre, c'est un pop-up et tout, il y a des fleurs.
Tu prends bien la tête. Hein. Ouais, c'est d'ailleurs aller sur le site de Mathieu.
Mais c'est pour ça que je pense que ta vision du fait que les gens achètent des CD repose plus sur le fait que tu fais des beaux objets que sur le fait que les gens achètent des CD. Je crois qu'ils n'achètent pas les CD de tout le monde.
On a même fait sur la précédente édition, là, tu sais, parce qu'il y a cette espèce de nouvelle mode, c'est de rééditer ton disque une deuxième fois avec des inédits. Alors, je ne l'avais jamais fait parce que je trouve ça un peu bizarre. Mais puisque justement, on avait sorti hâtivement le disque, il n'y avait pas un objet assez beau. Donc là, après, on s'est fait un livre-disque en format vinyle, mais vraiment un gros livre. En plus, tu sais, j'adore que le carton soit bien épais, les feuilles un peu épaisses. Il ne va vraiment pas le truc cheap parce que c'est... Et l'objet était d'une beauté rare. C'est-à-dire que j'étais très heureux de l'avoir fait, de l'offrir aussi. Tu sais, quand tu es fier d'offrir un objet que tu as fait en disant que c'est... Et là, tu te dis, ça a du sens, parce que même moi, je l'aurais acheté, celui-là.
Je pense que c'est même un bon indicateur.
Oui, c'est le...
Mais dans Qui de nous deux, il y avait un... Je me rappelle, il y avait un truc avec une guitare qui apparaissait dans ta main, et c'était une sorte de... Tu sais, les strips qu'on avait, fait et tout. J'adore, je trouve ça génial.
C'était Laurence Hérossi. D'ailleurs, petite pensée pour Laurence Hérossi, qui m'avait fait la pochette de jeudi M, qui était un scotché. C'est une anamorphose, c'est-à-dire que tu te mets dans un angle de la pièce et tu vois un truc très précis, mais si tu te décales, ça fait complètement autre chose. Il avait fait la pochette du Tour de M, où c'était l'Olympia vu d'en haut. Il avait fait la pochette de Kid Nous Deux avec ma guitare rose. C'est lui aussi qui avait fait la pochette sublime de l'album de Bachung, Fantasy Militaire, où il est un peu dans les tentes ouvertes comme ça. Enfin, bon, bref. C'est un grand, grand artiste aussi, Laurent Zerossi aussi. Et c'est lui qui m'avait fait ses flipbooks. Là.
Génial. Toujours kiffant. Mathieu, tu reviens quand tu veux, si tu as des choses à dire. Comme ça, pour passer. Il y aura les chouquettes et les fruits rouges. on se revoit bientôt.
Avec plaisir.
Voisin.
Ouais.
Bisous, prenez soin de vous si cette émission vous a plu. J'ai dit bisous comme ça encore, t'as vu?
Non, mais maintenant, je crois
attends,
que
j'arrête le bisou.
Je crois que c'est Panayotis qui a dit mais si, parce que regarde, si c'est une bouche, ça fait un bisou. Parce que à chaque fois que je dis, c'est pas comme ça, un bisou.
Ouais, je fais un bisou, prenez soin de vous. Tu vois, c'est vrai que je fais toujours un
bisou. Moi, je te fais chier, je dis, c'est pas ça, un bisou. Ça, c'est. Mais en fait, si, maintenant.
C'est vrai, ça. Oui, c'est pas mal.
Ça marche.
Moi, je vois bien.
Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de notre chaîne. Voilà, c'est notre chaîne. On est très contents. Elle est bien, on est bien, les petits canapés. Il y a des émissions, on peut les écouter quand on veut, c'est formidable. Allez voir d'autres émissions, partagez cette émission aussi si ça vous a plu. Et puis dans tous les cas, bah, prenez soin de vous et kiffez bien. Dans le détail, si vous entreprenez quelque chose, essayez d'être dans le détail, c'est là où on fait toute la différence. Bisous, salut.
Bisous, salut.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.